Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur la consolation surnaturelle de Dieu. Dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 3, Paul écrit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Et si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme un certain notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Vous nous assistez vous-même de vos prières afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Amen. Nous connaissons tous des peines et des souffrances dans la vie, peut-être un sentiment de rejet, un sentiment d'abandon, peut-être vous avez été méprisé, rejeté par vos parents. Peut-être vous avez voulu bien faire quelque chose, mais vous avez raté, puis vous avez été rejeté ou condamné. Ou peut-être vous avez perdu un être de votre famille, un être cher, un être proche, et vous vous sentez seul et abandonné. Cela génère de la souffrance, cela génère de la tristesse, cela génère de la peine, et tout cela, nous le vivons, nous le traversons, parfois même de la dépression, parce que le découragement est tel qu'on ne voit pas l'issue. Alors, qui peut consoler un cœur brisé? Qui peut restaurer quelqu'un qui est abattu? Bien, nous allons voir dans la parole de Dieu comment Dieu est notre secours et source de consolation. Même si vous aimez tout le monde, un jour ou l'autre, vous serez déçus. Même vos amis chrétiens, un jour ou l'autre, ils vous décevront pour telle ou telle raison. Peut-être ils vous feront souffrir. Paul a parlé même d'un certain Alexandre qu'il côtoyait, Alexandre le forgeron, il dit « Il m'a fait beaucoup de mal ». Pourtant, l'apôtre Paul faisait du bien, mais il a récolté du mal. Alors, vous ne pourrez jamais éviter toute forme de souffrance. La souffrance fait partie de la vie, mais vous pouvez faire un pas vers Dieu et trouver en Dieu une consolation surnaturelle, celle qui vient d'en haut, parce que notre cœur a besoin d'être réconforté par le Seigneur. Psaume 147, verset 3 dit ceci, « Il guérit, c'est-à-dire Dieu, il guérit, il en a le pouvoir, il en a l'autorité, il sait comment faire pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Vous êtes venu avec un cœur brisé, vous êtes venu avec des blessures, vous êtes venu avec des souffrances, déposez-les au Seigneur, il guérit, il est capable de le faire, il est puissant pour vous restaurer. D'abord, le premier point, c'est les peines de la vie en général que nous traversons. Paul commence au verset 3 par bénir le Seigneur. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Malgré les afflictions qu'il traverse, on l'a lu tout à l'heure, les peines qu'il endure à cause du ministère, eh bien, il commence par rendre gloire au Seigneur. Il bénit le Seigneur. Voilà une bonne attitude. Il a appris à louer Dieu en toutes circonstances, à le bénir même quand les choses vont mal, à être dans la disette et bénir le Seigneur, mais à être dans l'abondance et bénir le Seigneur. 1 Thessaloniciens 5:18, voilà ce qu'il enseigne. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses. Alors Paul a appris qu'il ne s'agit pas de rendre grâce seulement quand tout va bien, mais de rendre grâce en toutes choses, parce que notre Dieu dirige tout. Dieu reste au contrôle et nous, nous devons apprendre à le louer, à le bénir, même dans l'affliction, même dans l'épreuve. Même quand le Seigneur n'agit pas comme on veut, parce que des fois on est déçu aussi, que le Seigneur n'a pas répondu, que le Seigneur n'a pas agi, eh bien, rendons-lui grâce de toute manière. Alors, est-ce que vous connaissez comme Paul ce Dieu de toute consolation? Il écrit « Béni soit le Dieu et Père » au verset 3 de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Voilà, c'est ce Dieu-là qu'il nous faut rencontrer, ce Dieu qui console les cœurs brisés. Alors, on a tous des joies et des peines. Peut-être on connaît Dieu comme un Père, c'est très bien. On connaît Dieu comme un Sauveur, on connaît Dieu comme un Libérateur. Tout ceci, ce sont des bonnes choses. Mais est-ce que nous connaissons Dieu comme le Dieu de toute consolation, celui qui va consoler votre cœur? Psaume 132, verset 1, David écrit, Cantique des degrés, « Éternel, souviens-toi de David, de toutes ses peines. » Éternel, souviens-toi de toutes mes peines. David aimait Dieu, oui. Dieu l'avait choisi et l'avait établi roi, oui, il avait ses privilèges. Mais il a eu de nombreuses peines. Dès le début, il a été mis de côté par son père. Lorsque Samuel est venu choisir le roi, il a été écarté. Son frère le méprisait. Son beau-père Saül voulait le tuer. Ça a généré beaucoup de peines. Il a perdu un enfant qu'il avait eu avec Bathsheba. Encore des peines. Son fils Absalom s'est retourné contre lui. Encore des peines. Et toute sa vie est une succession de peines. C'est pourquoi il dit « Souviens-toi, souviens-toi de moi, de toutes mes peines. » Peine sur peine. Et comme David, peut-être vous êtes venu dans ce lieu avec peine sur peine. Mais venons vers le Seigneur qui est le Dieu de toute consolation. Donc il n'y a pas de peine trop difficile pour lui. Il est le Dieu de toute consolation. Aucune peine n'est trop grande pour Dieu. Ne restez pas avec votre peine comme David. Présentez-la à l'Éternel. Déposez-la au pied du Seigneur. Ne vous chargez pas d'une peine, mais exposez-la. Un jour, Jésus avait été invité chez un homme qui s'appelait Simon, à Béthanie. Et alors qu'il est en train de manger, il y a un temps autour de la table, tout d'un coup, une femme rentre. Elle s'approche de Jésus avec un vase d'albâtre rempli d'un parfum très cher. Et voilà qu'elle va rompre le parfum sur la tête de Jésus et oindre Jésus de ce parfum. Et c'était un parfum de grand prix, la Bible dit 300 deniers, l'équivalent de 300 jours, presque une année de travail en fait. Et elle va répandre donc ce parfum de très grande somme sur Jésus. Alors les disciples se sont offusqués et ont dit « Mais Seigneur, n'aurait-on pas vendre ce parfum et puis donner cet argent aux pauvres plutôt que de le dépenser là tout de suite ?» Alors ils s'irritaient contre la femme et ils la jugeaient. Et voilà ce que Jésus dit dans Marc 14, verset 6. Jésus lui dit « Laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine ? Elle a fait une bonne action à mon égard. » Elle avait de la peine à cause de la réaction des disciples. Les disciples, par leur jugement, par leurs paroles, par leur maladresse, ils faisaient de la peine. Vous voyez, on peut être chrétien, on peut être même dans la même église, et par nos actions, par nos paroles, on fait de la peine. On fait de la peine aux autres. Et le Seigneur le voit et il dit, il reprend ses disciples. Mais pourquoi lui faites-vous de la peine? Ce qu'elle a fait est une bonne chose. Cette femme n'a pas été comprise, elle a été jugée sévèrement. Mais ce qu'elle avait fait était bien, elle honorait Jésus en fait. Les disciples ne l'avaient pas compris. Ils l'ont dénigrée, peut-être ils l'ont rabaissée, peut-être ils l'ont jugée. Ils l'ont critiquée, ils ont parlé sur elle. Mais Jésus a vu sa peine. Moi, je crois que le Seigneur, il voit notre cœur, il voit notre peine, il voit notre souffrance et il a compassion. Et la fin de ce récit se termine de cette manière. Jésus a mis en valeur cette femme et elle a dit, cette femme-là, elle a fait un acte prophétique. Elle a d'avance embaumé mon corps. C'était une image pour parler de la mise au tombeau du Seigneur. Et il a fait une promesse en disant, dans le monde entier, on se rappellera de ce que cette femme a fait. Jésus a donc valorisé cette femme, il l'a réconfortée, il l'a consolée et il lui a donné une promesse. C'est pour ça, lorsque nous avons de la peine, venons au Seigneur la déposer à Jésus. Il connaît aussi nos peines. Peut-être vous n'avez pas été compris, vous avez été mis de côté, vous avez été rejeté. Mais Jésus a compris le cœur de cette femme, il a compris sa peine, il a vu sa souffrance, il ne l'a pas jugée, il ne l'a pas condamnée, il l'a relevée avec des paroles réconfortantes. Et il y a un temps pour tout. La Bible dit dans Ecclésiaste 3, 4, il y a un temps pour pleurer, et puis il y a un temps pour rire, il y a un temps pour se lamenter, et un temps pour danser. Il y a un temps de la peine, il y a un temps de la souffrance, ça fait partie de la vie. Mes frères et sœurs, la peine ne doit pas être permanente. On ne doit pas entretenir une peine perpétuelle. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous. Dieu désire nous faire sortir de cette peine, un peu comme cette femme qui est venue avec ce vase. Jésus n'a pas voulu qu'elle reste dans sa peine, il a voulu l'aider à sortir de cette situation. Alors, les émotions que nous avons sont humaines, hein. C'est pour ça qu'on a des hauts et des bas. Des fois, on a un bon moral, puis des fois, on est découragé. Ça fait partie de la vie. C'est les peines, les souffrances, les difficultés. Ça, c'est parce qu'on est des êtres humains avec des émotions, donc on doit en tenir compte et déposer au Seigneur ces choses. Nous, on n'est pas comme les ordinateurs, hein. Les ordinateurs, vous appuyez sur le bouton, il démarre. Il connaît jamais de baisse de morale, il est toujours actif, toujours prêt à travailler. Ça, c'est les ordinateurs. Si ça va pas bien, on le reformate, on appuie sur un bouton et voilà, ça repart. Mais les êtres humains, ils sont complexes, avec des sentiments, avec des hauts, des bas. Et il y a que le Seigneur qui peut restaurer un cœur qui est vraiment en peine, en souffrance. Déposons-le au Seigneur, comme Paul l'a fait dans cette parole. Il a rencontré le Dieu de toute consolation. Peut-être vous êtes venu ce matin et vous avez besoin de faire une rencontre avec le Dieu de toute consolation qui lui seul peut prendre en compte vos peines. Le deuxième point, c'est maintenant répandre sa peine devant Dieu. Donc Paul le fait ici, où il parle de ses souffrances, de ses malheurs. David le fait au psaume 6, verset 7, par exemple. Il dit ceci, « Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent me le font vieillir. Éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueillera ma prière. » Voilà David qui est dans la peine, il est dans la souffrance, il pleure, il est là devant Dieu, il répand ses larmes. Et on a besoin de partager, de déverser nos souffrances sur le Seigneur. Et il le fait. Parce qu'il sait que Dieu, c'est le meilleur des confidents. À Dieu, vous pouvez tout lui confier. Parler de vos souffrances, de vos peines, de vos malheurs. Il écoute. David dit, l'Éternel entend la voix de mes larmes. Ce sont des prières de larmes qu'il fait monter vers Dieu. Alors, vous pouvez lui raconter toutes les injustices que vous traversez, toutes les incompréhensions, les mépris, les rejets, et le dire au Seigneur. Tout ce qui va mal dans votre vie. Et peut-être que vous avez déjà été consolé une première fois. Mais ce n'est pas fini. Vous avez besoin d'être consolé à nouveau. Regardez le psaume 71, verset 21. Le psalmiste dit « Relève ma grandeur, console-moi de nouveau. » On a besoin d'être consolé plusieurs fois, pas juste une seule fois, parce que les peines, elles continuent à arriver de toutes parts. Donc, il y a assez de consolation en Dieu pour nous consoler à nouveau. Et à chaque fois qu'il y aura des peines, à chaque fois qu'il y aura des souffrances, eh bien, il y aura le Dieu de toute consolation qui est capable de vous consoler de toutes vos peines. Mais vous aurez besoin de plusieurs consolations dans votre vie, et la consolation de Dieu est inépuisable. Je pense à Anne, qui était stérile, qui en souffrait de cette situation. C'était aussi, à l'époque, un fardeau, une honte de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Et son mari tentait de la consoler dans 1 Samuel, chapitre 1, verset 8. Elkana, donc son mari, lui disait « Anne, mais pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Voilà comment il essaye de consoler sa femme, qui qui est stérile. Mange. Arrête de pleurer, mange. Et puis regarde-moi, est-ce que moi, à moi tout seul, je ne vaux pas mieux que 10 fils ? Bon, ben Anne, ça ne l'a pas consolée. Ça ne l'a pas consolée. Elle avait toujours sa souffrance, elle avait toujours ses pleurs. Et elle a bien fait parce que, dans certains cas, vous ne trouverez pas la consolation de manière humaine. Parce que même avec la meilleure volonté du monde, les hommes sont limités et ils ne peuvent apporter cette consolation. Mais elle a bien fait, elle s'est tournée vers Dieu, dans les pleurs toujours, dans sa souffrance, et elle a fait monter vers Dieu sa prière de souffrance. Et en même temps qu'elle pleurait devant Dieu, en suppliant Dieu de lui donner un enfant et de consoler son cœur, elle a fait cette promesse à Dieu, « Si tu me donnes un enfant, je le consacrerai au service de Dieu, il sera au temple. » C'est une prière de consécration, et elle restait là longtemps, alors le sacrificateur Eli l'observait, il a vu une femme qui pleurait, qui balbutiait, et il a pensé qu'elle était ivre dans sa souffrance, dans sa douleur, alors elle a été jugée. Mais néanmoins, Eli a reçu une parole de Dieu pour elle, et lui a dit que dans un an, elle aurait un fils. Et c'est ce qui est arrivé, Samuel est né, et elle a fait son vœu, c'est-à-dire quand vous faites un vœu à l'Éternel, eh bien, il faut le faire. Elle a donc donné son enfant au service de Dieu. Peut-être c'était un grand risque qu'elle prenait puisqu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle en a eu un, mais elle le donne à Dieu. Donc du coup, elle n'a plus d'enfant directement. Et Dieu l'a bénie puisqu'il lui a donné encore d'autres enfants derrière. Mais elle a fait cette prière de consécration et Dieu a honoré sa foi. Ça, c'était le deuxième point. On voit qu'il y a la nécessité de répandre sa peine devant Dieu et de lui dire tout ce qui ne va pas. Ensuite, un troisième point, c'est maintenant les sources de consolation. Alors, nous voyons différentes sources de consolation au verset 4, par exemple, dans notre texte. C'est Dieu qui nous console de toutes nos afflictions. Il nous console de toutes nos afflictions. Donc, on voit que Dieu est la source principale de toute consolation. Les afflictions sont nombreuses. Chaque jour, vous aurez de nouveaux problèmes, défis, souffrances, difficultés. Mais il nous console de toutes nos afflictions. Ça veut dire que sa consolation est permanente, elle est illimitée. C'est à nous de chercher au pied du Seigneur la consolation. Psaume 86, verset 17, voilà les fils de Corée. « Opère un signe en ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confus, car tu me secours et tu me consoles. » Ô Éternel, cherchons en Dieu cette consolation surnaturelle. Tu me consoles. Alors, la Bible mentionne aussi que Jésus-Christ est une source de consolation. Paul en parle, il a connu beaucoup de déboires, des contre-coups, on en a parlé. Mais il allait à la source. Philippiens 2.1, voilà ce qu'il nous enseigne. Si donc il y a quelque consolation en Christ. Voilà où Paul a trouvé des consolations. En Christ. S'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite en ayant un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. Cherchons la consolation auprès du Seigneur Jésus, Dieu le Père, oui, Jésus qui nous console. La parole de Dieu est aussi en elle-même une source de consolation. Romains 15, 4. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Alors quand vous lisez la parole de Dieu, ça va vous procurer une consolation. La parole de Dieu est une nourriture, la parole de Dieu nous restaure. Et la parole de Dieu contient des promesses qui vont être comme un baume sur notre cœur pour nous soulager dans nos souffrances. C'est pourquoi lisez la parole de Dieu, méditez-la. C'est une belle source de consolation. Et puis Paul mentionne encore une autre source au verset 4, à la fin du verset 4, « Afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. » Et maintenant il parle de la consolation que nous pouvons apporter aux autres en tant que chrétiens. Donc les frères et sœurs en Christ sont aussi une source de consolation. Nous avons été consolés par Dieu pour consoler les autres. Paul parle des frères et sœurs qui ont été pour lui une source de réconfort. Et il le recommande d'ailleurs, 1 Thessaloniciens 4, 18, « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Consolez-vous. » Donc, il demande que nous, entre chrétiens, nous soyons des sources de consolation les uns pour les autres et non pas d'avoir des paroles de jugement, de critique, des paroles dures, des paroles de rejet. Et dans le contexte, ici, il parle du retour de Jésus et nous devons nous exhorter les uns les autres et nous encourager les uns les autres. Alors, c'est pas facile d'encourager les autres, c'est pas facile de les consoler. Surtout si la personne souffre, elle a des gros problèmes, on voit pas comment l'aider, mais on prie et le Seigneur nous aide. Nous devons aussi apprendre à nous décharger sur le Seigneur de nos soucis, parce que certains ont pris l'habitude d'entretenir des pensées mauvaises, négatives, d'être chargés. Eh bien, la Bible nous enseigne à nous décharger sur le Seigneur. Donc ça, on doit le faire aussi, pour ne pas être découragé. Donc prions pour changer d'état d'esprit, soyons des sources d'encouragement pour les autres. Vous avez un bel exemple, c'est Barnabas, qui d'ailleurs avait été nommé ainsi parce qu'il était quelqu'un qui encourageait. On l'appelait fils d'exhortation, Barnabas. Et pour Paul, il a été là pour lui tendre la main quand Paul était rejeté. Donc voilà quelqu'un qui encourage, qui est une source de consolation. Il est allé chercher Paul, il lui a pris la main, il l'a ramené vers les apôtres. Vous voyez, il a été vraiment un élément de consolation pour Paul. Donc, soyons nous aussi, envers les frères, envers les sœurs, des sources de consolation. Sachons nous aimer les uns les autres. Les épreuves que nous traversons ne sont pas dues au hasard. Nous devons comprendre ceci. C'est que même les épreuves qui nous font souffrir nous préparent à quelque chose. Alors, nous sommes à l'école de Dieu. En réalité, nous sommes en train de passer des tests. Et chaque épreuve est pour nous une occasion de grandir, progresser. Alors, Dieu utilise les circonstances. Peut-être vous traversez une situation, je ne sais pas, peut-être au travail, vous avez un collègue très irritant, alors vous priez Dieu, Seigneur, éloigne de moi ce collègue, ce qui il vous énerve. Mais justement, le Seigneur est en train de travailler un aspect de votre caractère en ayant placé cette personne à vos côtés. Et tant qu'il est là, c'est que vous avez encore des progrès à faire. Et puis, un jour, paf, il part. Mais c'est parce que vous arrivez au stade 2. Et Dieu va vous envoyer encore quelqu'un de plus irritant pour progresser encore. Parce que quand vous avez réussi à monter une marche, eh bien Dieu vous prépare à monter la deuxième marche. Il n'y a pas beaucoup de « Amen, Alléluia ». C'est normal parce qu'on aime bien s'arrêter au bout d'une marche. Et on dit « Là, Seigneur, je suis arrivé, je ne bouge plus ». Non, le Seigneur a prévu encore d'autres progressions. Alors, nous ne sommes pas très motivés pour avancer, pour progresser, mais le Seigneur sait comment nous faire avancer et il suscite des situations pour que nous franchissions des étapes, des caps, et c'est ainsi que nous allons grandir. Alors, prenons aussi à cœur de comprendre comment Dieu agit et qu'il suscite telle chose ou telle chose, mais comprenons que c'est pour notre progrès, notre avancement, et que nous allons grandir en faisant confiance au Seigneur, et qu'il ne va pas vous abandonner, il ne va pas vous laisser dans la souffrance et le découragement, mais il va consoler vos cœurs, et il va vous aider à surmonter cette épreuve. Quatrième point, les conséquences de la consolation, car la consolation de Dieu nous permet de reprendre la route d'une manière positive. Psaume 94, verset 19, dit ceci, « Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. » Voilà ce qu'il nous faut, frères et sœurs, les consolations de Dieu, ça va nous réjouir et nous permettre de repartir. Alors peut-être aujourd'hui vous êtes à terre, découragé par la tristesse, vous avez perdu la joie, vous êtes arrêté dans votre vie chrétienne, mais Dieu peut vous apporter la consolation qui va réjouir votre âme et vous permettre de vous relever. Alors, comment faire pour rester encourageant? Être chaque jour renouvelé dans la vision de la parole de Dieu, ça c'est important. Arrêter de voir le côté sombre des choses, c'est-à-dire changer de vision, voir la main de Dieu, par exemple. Bien, chaque jour est un nouveau jour, et nous pouvons louer le Seigneur, déjà quand on ouvre les yeux le matin, et bien de dire « Merci Seigneur pour le souffle que tu me donnes », d'être émerveillé par le cadeau de Dieu, la vie qu'il nous a donnée, de bénir le Seigneur pour le souffle, la respiration, pour la famille qu'il nous a donnée, pour les frères et les sœurs, avoir cet état d'esprit encourageant et dans la foi. Alors c'est vrai que quelqu'un a dit, les chrétiens ont souvent la tête mal vissée, ils regardent toujours en arrière. Alors, ça c'est dommage. Apprenons à regarder dans la bonne direction, à regarder vers le Seigneur, à regarder vers ce qui est bon, ce qui est positif, et décharger de notre esprit les pensées de découragement, les pensées d'abattement. Ça c'est notre part et on doit le faire tous les jours. Donc rester encourageant, on voit avec Élie par exemple, qui était un prophète de Dieu, il entend les menaces de Jézabel sur sa vie, et Jézabel a prononcé une sentence de mort sur Élie, et lorsqu'il entend cette sentence, il a peur, il va au désert et demande à Dieu la mort. Il dit « Je ne suis pas meilleur que mes pères, reprends-moi la vie ». Et il était vraiment découragé. Il était très triste, très abattu, en dépression. Alors Dieu aurait pu lui dire « C'est vrai, tu n'as pas été courageux, tu aurais dû résister aux paroles de Jézabel, tu as fui, donc tu es un mauvais serviteur ». Dieu aurait pu le mettre de côté, le juger et ne plus l'utiliser. Mais Dieu l'a consolé, Dieu l'a relevé, il a envoyé un ange vers Élie qui est venu avec un gâteau, une cruche d'eau qui lui a donné la nourriture nécessaire, qui l'a réconforté. Et le prophète Élie s'est restauré, 1 Roi chapitre 19 verset 8. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Il était au fond du trou, il était complètement découragé, il ne marchait plus, mais la restauration de Dieu, la consolation de Dieu, la nourriture qu'il a eue dans son cœur, qui venait de Dieu, a été une force et il a retrouvé le chemin, il a retrouvé la marche. Bien, c'est une expérience que l'on peut faire quand on vient au pied du Seigneur, quand on lui confie tous nos soucis, on reçoit sa guérison, sa consolation et on repart avec une force nouvelle qu'il nous donne. Alors, en conclusion, on voit que on a tous besoin de consolation, qui que nous soyons, à des moments, on a des hauts, on a des bas et le Seigneur le sait et c'est humain. Mais Dieu a prévu la manière de nous consoler et de nous restaurer. Alors ne restez pas avec votre peine, n'entretenez pas votre peine de manière indéfinie, parce que cela est mauvais, répandez-la devant Dieu, abandonnez-lui toutes vos douleurs, et puis rendez-lui grâce en toutes choses, comme Paul nous en a montré le chemin. On va prier quelques instants. Merci pour ta parole, pour la consolation que nous pouvons trouver dans tes bras, parce qu'il y a en toi, Seigneur, toute la ressource nécessaire pour que nos cœurs soient visités, vivifiés. Tu vois celui peut-être ce matin qui est venu avec un cœur chargé, souffrant, ou qui a besoin d'être encouragé, Seigneur, qui a besoin d'être relevé, qui vit, traverse une peine. Alors, Seigneur, toi qui es le Dieu de toute consolation, viens bénir, viens accorder un nouveau départ, et viens, Seigneur, relever celui ou celle qui est abattu, parce que tu es notre force, tu es notre secours, notre soutien. Et nous te remettons toutes choses entre tes mains dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.